En notre nom à tous, je tiens à remercier Madame le professeur Mireille Delmas-Marty de nous accueillir au Collège de France et spécialement ce matin d'avoir associé des historiens ou des chercheurs qui travaillent sur l'histoire du droit pénal, des doctrines pénales, de la criminologie, des pratiques aussi, et qui bien évidemment ne sont pas insensibles, loin s'en faut, aux problématiques actuelles qui, comme tout historien, interroge le passé avec des questions suggérées par le présent, voire par l'avenir. Je remercie particulièrement les collègues de ce matin et notamment ceux qui nous viennent de l'étranger, de loin, à côté de moi, Carlos Petit et Bernard Harcourt qui parleront. Monsieur Danet terminera la matinée. Et nos collègues étrangers nous ont fait la grande gentillesse aussi d'accepter de parler en français. Et nous les remercions infiniment pour cet égard. Je citerai pour commencer un court passage d'Albert Desjardins, professeur de droit pénal à la faculté de Paris à la fin du XIXe siècle, un peu disparu aujourd'hui des références, qui écrivait: il n'y a sur le droit de punir qu'une théorie solide, celle qui se fonde sur l'indispensable besoin de la peine, qui invoque le droit de défense, la théorie qui n'a pas cessé d'être professée en Italie depuis Beccaria et qui a trouvé de chaleureux adhérents même dans d'autres pays. Ce constat était partagé par d'autres de ses contemporains, par Ferry notamment, qui commence sa sociologie criminelle par un hommage à Beccaria. Et bien auparavant, Bentham, dans une de ses premières œuvres, opposait Beccaria dans la noble figure du censeur du droit à Blackstone, relégué au rang de servile commentateur du droit. Il ne fait guère de doute que Beccaria rompt avec les pénalistes de l'Ancien Régime par sa critique violente du droit positif, et par son projet de remplacer ce qu'il appelle le fatras du droit romain, des coutumes lombardes et des opinions des docteurs par un code de loi pénale. Il n'y a pas d'abus à considérer que Beccaria présente la première doctrine pénale en tant que telle, une doctrine prescriptive fondée sur une rationalité interne du droit pénal. Dans une perspective didactique, nous sommes parfois amenés à réduire la pensée de Beccaria à son plaidoyer contre les supplices et la peine de mort, à une vibrante justification du mouvement d'adoucissement des peines. Et toujours par souci de simplification et par facilité d'identification des protagonistes, nous sommes tentés de présenter l'histoire des doctrines pénales au XIXe et au XXe siècle comme une alternance incessante de courants favorables à la douceur ou à la sévérité des peines. Après Beccaria, il y aurait eu un raidissement depuis Kant et Bentham jusqu'aux auteurs du code pénal napoléonien et du code bavarois, puis un appel à la mesure et à l'atténuation des peines chez Rossi, les avocats de la réforme de 1832 en France, Chauveau et Elie, plus tard Ortolan, puis la fameuse école positiviste italienne, incitant à une réaction contre le flot montant de la criminalité, suscitant elle-même des résistances, notamment en France, de professeurs de droit, attachés à la notion de responsabilité et plaidant pour davantage de douceur, à nouveau dans l'entre-deux-guerres, notamment une consécration des mesures de sûreté dans la législation de plusieurs pays, puis après la Seconde Guerre mondiale, un retour de balancier avec la nouvelle défense sociale de Gramatica et Ancel, en attendant la frénésie ou la dérive sécuritaire de ces dernières années. Dans une telle alternance de doctrines pénales, chacun peut trouver à se rassurer sur l'ancienneté de ses propres convictions en invoquant les grands noms de la philosophie, du droit, de la sociologie ou de l'anthropologie. Depuis Michel Foucault, le soupçon a cependant pénétré et fortement ébranlé ce schéma de l'éternel retour d'une alternance entre sévérité et indulgence. L'historiographie récente a par exemple mis en valeur l'existence au siècle des Lumières d'un courant réformateur qui plaide pour davantage de sévérité dans les peines. En Angleterre, un texte anonyme de 1701 les œuvres Delife, du référent Madden et de Palais prônent l'absence totale d'indulgence pour une population criminelle qui est déjà jugée irrécupérable. Ces œuvres parlent de nos ennemis de naissance, une race ingouvernée qu'il faut traiter avec des lois aux dents aiguisées. Ces arguments de politique pénale préfiguraient les accents plus sombres que l'on trouve chez Beccaria, derrière une auréole de modération pour le moins discutable. La certitude et la rapidité des sanctions destinées, écrit Beccaria, à frapper l'esprit grossier du vulgaire, l'asservissement temporaire du travail et de la personne du coupable à la société, le tourment d'un homme perdant sa liberté transformé en bête de somme, la rigueur infamante et implacable des peines qui refusent toute place à la clémence, autant d'accents sévères qui auraient prévalu aux États-Unis selon l'analyse de James Whitman. Depuis les travaux de Pierre Lascoum, nous sommes plus sensibles aux rigueurs du Code pénal français de 1791, aux formes de continuité entre ce premier Code français et le Code napoléonien de 1810, comme au recours au langage de la terreur par les codificateurs français comme Target, qui avait connu peu de temps auparavant la justice révolutionnaire. Quand le tribunal de cassation parle sous le consulat de l'état de guerre qui s'établit entre la société et un brigand qui la dévaste, quand un pamphlet de la même époque considère que le code pénal est un pacte de guerre, il faut qu'on tremble en le lisant. Il faut par humanité que tout y soit terrible, jusqu'au style employé pour sa rédaction. Les héritiers des Lumières et les lecteurs de Beccaria, génération, paraissent les plus enclins à défendre impitoyablement l'ordre public. L'on sait qu'à la même époque, Bentham s'oppose à la métaphysique des droits de l'homme et, après avoir vanté les mérites de Beccaria, au sentimentalisme de certains orateurs. Il écrit en 1811 « Si la répugnance d'un cœur sensible est une objection suffisante contre une loi pénale, il faut anéantir le code pénal. » Nous pourrions poursuivre ce catalogue de mise à nu de réflexes sécuritaires chez les auteurs apparemment les plus favorables à l'adoucissement des peines. Pour nous limiter à l'exemple de la France, il est bien connu qu'à la fin du XIXe siècle, Saleil et Garot se montraient favorables à la fois à la relégation des récidivistes incorrigibles comme au sursis et à la libération conditionnelle. Et dans l'œuvre de Marc Ancel, 1954, on trouve certains passages sur les mesures de sûreté prédélictuelles qui peuvent faire frémir. Notre démarche ne consiste pas à traquer les préjugés répressifs et sécuritaires de ces auteurs se prétendant humanistes, mais à montrer que l'ambivalence est au cœur des doctrines pénales modernes. Une ambivalence conceptuelle, d'abord, autour des notions à double tranchant de prévention et de sûreté. Une ambivalence contextuelle, ensuite, autour des réflexes de défense sociale et de protection des libertés. Une première ambivalence conceptuelle résulte de l'association entre punir et prévenir. Un des postulats communs aux doctrines pénales modernes réside dans la théorie utilitariste de la peine. Alors que les pénalistes d'Ancien Régime insistaient davantage sur le péché et son expiation, les modernes cherchent depuis Beccaria à mesurer les peines pour empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens et dissuader les autres d'en commettre de semblables. Beccaria met au centre de sa réflexion le calcul utilitariste, celui de l'homme rationnel, l'homo economicus, qui maximise son plaisir par rapport à son mal, et le calcul du législateur, d'autre part, qui fulmine et applique des peines destinées à détourner du crime. Pour qu'une peine soit juste, écrit-il, elle ne doit avoir que le degré de rigueur suffisant pour détourner du crime. Beccaria essaie ainsi de reconstituer le raisonnement d'un voleur ou d'un assassin, celui qui a devant les yeux de longues années ou même une vie entière de captivité et de douleur, où il sera l'esclave des lois qui le protégeaient naguère, exposé au regard de ses concitoyens dont il était l'égal et l'associé, fera une salutaire comparaison de tout cela avec le succès incertain de ses forfaits et le peu de temps où il pourra goûter ses fruits. Combiné de manière artificielle, pensent certains à la théorie du contrat social, cette conception a pu soutenir des revendications en faveur de l'abandon des supplices. Mais l'argument de la prévention joue également dans le sens de la certitude de peine rigoureuse, car supérieure en souffrance au plaisir retiré, voire simplement attendu du crime. Bentham ne cache nullement cette orientation. La peine, écrit-il, ne peut être douce, car c'est associé deux idées contradictoires. En revanche, elle peut être économique en empruntant la langue du calcul et de la raison. De ce fait, la peine doit aller en intensité beaucoup au-delà de l'avantage. La peine doit se faire craindre plus que le crime ne se fait désirer. Il est donc nécessaire que la peine corresponde à tous les degrés de la tentation. En équivalent monétaire, le montant du profit du crime doit être augmenté sensiblement, puis multiplié par un coefficient tenant compte des chances d'impunité pour arriver à la peine. L'utilitarisme pur conduit de la sorte à la sévérité d'un surplus de peine. Il y a pire si l'on suit cette logique, car Bentham, comme Beparia, insiste sur le fait qu'au moment de l'application de la peine, le mal est déjà fait, le délit a eu lieu. Sur le criminel qu'il faut punir, la peine a déjà perdu sa fonction préventive, pourtant principale. Elle n'a pas empêché le délinquant de commettre le crime. D'une certaine manière, écrit d'ailleurs Bentham, on le punit en pure perte. La peine exécutée ne peut être utile qu'à l'avenir, pour prévenir d'autres crimes en préparation. Mais si le degré de la peine prévue n'a pas dissuadé le criminel qu'on s'efforce de punir, c'est probablement qu'il était insuffisant, et donc qu'il faudrait punir davantage les criminels futurs ou potentiels que l'on veut dissuader. Le calcul du surplus de peine encourage, me semble-t-il, à une continuelle augmentation de la peine en constatant que les crimes continuent à être commis et par conséquent que les peines continuent à être insuffisantes. Bien sûr, ni Beccaria ni Bentham n'envisagent une telle hypothèse d'indétermination de la peine ou d'augmentation a posteriori qui serait contraire au principe de l'égalité, mais Bentham, en tout cas, ne conçoit aucune limite à l'action du législateur pour calculer ce surplus de peine. Et cette réflexion se retrouve dans les arguments de l'école positiviste, notamment pour critiquer l'ensemble du système des peines. Si les crimes ne reculent pas, c'est que la peine est toujours insuffisante et qu'il faut aller vers des mesures de sûreté encore plus sévères. D'autant plus que ce discours sur le caractère préventif de la peine se combine assez tôt, dès la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, avec un discours extrêmement dur à l'égard des délinquants, considérés comme des hommes anormaux, qui ne sont peut-être pas dans la meilleure situation avant la commission du délit pour calculer les risques que représente le délit. Beccaria lui-même a une petite hésitation quand il fait ce calcul sur le voleur ou le criminel en écrivant « Bien sûr, les criminels ne sont pas des grands raisonneurs » ou en tout cas, ils ne sont pas capables d'exprimer clairement leurs motivations et leurs raisons. Il faut donc supposer pour eux et pour leur esprit qu'ils font ce calcul. Bentham, sur ce point, est finalement plus indulgent, car il écrit que les criminels sont des bons calculateurs, parce qu'ils sont avides, parce que l'envie, la passion de l'argent notamment, est à la base du calcul, et qu'il ne faut pas leur prêter des sentiments inhumains ou des réflexions bestiales. Il n'empêche que le courant utilitariste est suivi très tôt, et bien avant l'école positiviste, l'a été montré plusieurs fois, par toute une réflexion de juristes, d'aliénistes, de médecins, qui au cours du XIXe siècle insistent sur le caractère dégénéré, anormal du criminel, et par voie de conséquence, sur son peu de sensibilité à ce mode de calcul de la peine préventive. Donner à la peine une fonction principalement préventive, comme l'a fait la doctrine classique, n'est pas, comme on le croit souvent, accorder la priorité à la prévention sur la punition, c'est faire un pari prospectif sur l'effet des peines, un pari qui encourage à la sévérité. Avant d'en venir à ces effets d'entraînement, il faut insister sur une deuxième ambiguïté conceptuelle de la pensée pénale moderne à partir de Beccaria, celle de la notion de sûreté. Le terme, comme son cousin, sécurité, qu'il a emporté au fil du temps, présente un double visage. Lisons une des phrases les plus célèbres de Beccaria. « Le droit qu'a le souverain de punir les délits est donc fondé sur la nécessité de défendre contre les usurpations particulières le dépôt constitué pour le salut public. Et les peines sont d'autant plus justes que la sûreté est sacrée et inviolable, et plus grande la liberté que le souverain laisse à ses sujets. » Ce texte mérite attention, sans aucun doute, par le recours à la nécessité de la défense, un terme qu'on va retrouver quelques années plus tard, développé considérablement par Romagnosi en 1791, et par l'invocation du caractère inviolable et sacré de la sûreté, qui pour nous, Français, évoque immanquablement les articles 2, 7, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais à qui est reconnue cette sûreté si sacrée? Est-ce aux délinquants, ou présumés-tels, qui usurpent le dépôt constitué pour le salut public en violant la loi commune? S'agit-il vraiment de garantir la liberté de chacun contre les arrestations ou les procédures arbitraires pour que tout homme soit en sûreté ou ait, comme le disait Montesquieu, une bonne opinion de sa sûreté face aux abus de la répression? Tel ne paraît pas être, dans cette phrase, le sens donné par Beccaria à une sûreté mise en balance et donc séparée de la liberté des citoyens. Si cette dernière comporte aussi sa part de sécurité individuelle, c'est que la valeur suprême est la sûreté publique, commune, universelle, sociale, tous les qualificatifs employés quelques années plus tard par Romagnosi. La sûreté n'est donc pas toujours une face de la liberté individuelle, une assurance de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, comme nous dirions aujourd'hui. Elle est cet objet de la police et le but de la législation pénale, le fondement du droit de punir accordé à la société pour se défendre contre les délinquants. Les théories pénales modernes enclenchent donc, dès Beccaria, des Rousseau aussi, une logique de guerre qui est fondée sur un triptyque, danger public, atteinte consistant dans une atteinte à la sécurité, à la sûreté de la société, réflexe de défense sociale, du corps social attaqué, qui passe, comme en matière de guerre contre l'étranger, par l'élimination du délinquant ennemi. Il nous semble que ce mécanisme sévère, dangereux, qui se trouvait déjà chez Beccaria et chez ses successeurs, a été bien dénoncé en 1829 par Rossi, qui contestait que la société puisse se dire en état de guerre et de défense contre un mal consommé, le crime qui avait eu lieu, ou contre un mal futur qui n'avait pas encore d'existence. La justice pénale, selon Rossi, n'est pas la guerre, ni une réaction immédiate et irréfléchie à une attaque, ou pire encore, à la perception d'un danger. Nous avons dit tout à l'heure que ces discours réformateurs, en apparence humanistes, fondés sur le caractère préventif de la peine, fondés sur la sûreté, s'accompagnaient de propos qui sont allés en s'amplifiant au cours du XIXe siècle sur la population criminelle. Et c'est l'autre catégorie d'ambivalence que nous voudrions très rapidement mettre en relief sur des contextes bien connus, l'ambivalence contextuelle. Elle apparaît particulièrement nette à la fin du XIXe siècle avec la naissance de l'école positiviste italienne. Cette école se présente comme une école scientifique, voulant rompre avec le doctrinarisme métaphysique des écoles classiques ou néoclassique, elle prétend détenir une vérité fondée sur l'observation des faits, mais en même temps, elle affirme répondre à une situation pressante qui serait une augmentation menaçante, considérable de la criminalité. Tous les auteurs italiens, mais aussi français, belges, américains de cette école ou influencés par cette école sont convaincus que la révolution industrielle, les transformations économiques et sociales du XIXe siècle ont apporté sans doute un surcroît de prospérité, peut-être un bénéfice pour la civilisation, en tout cas ont grossi l'armée du crime, une armée de déclassés qui menace la société. Et cette réflexion, encore une fois, elle était déjà présente chez certains auteurs de la première moitié du XIXe siècle. L'école positiviste entend donc réagir vigoureusement à un contexte d'insécurité et de sécurité sociale, et c'est pourquoi elle appelle aussi à un surcroît de peine, à un changement de répression et de pénalité. Mais ce qui frappe, c'est qu'au cours du temps, ces auteurs ont connu les évolutions de la première moitié du XXe siècle. Ferry, Garofalo ont connu le régime fasciste et l'ont partiellement soutenu, en tout cas la réforme du code pénal. Ces auteurs, quand ils analysent des réalisations pratiques correspondant aux vœux qu'ils ont exprimés, se montrent toujours insatisfaits, se montrent toujours pessimistes. Les résultats des réformes ne répondent jamais aux demandes qui ont été faites. La prophylaxie sociale n'arrête pas la maladie, n'arrête pas le mal, et la guérison se situe toujours plus loin. Ce qui fait qu'il y a cet effet d'entraînement, de sévérité croissante, dont je donnerai un seul exemple chez le professeur belge Prun, qui s'interroge d'abord sur l'intérêt de la peine de mort, qui assez manifestement serait convaincu de l'utilité de la peine de mort en suivant Garofalo, mais au dernier moment recule devant les craintes de l'opinion publique, devant l'évolution de l'opinion publique, qui rend, dit-il, impossible, il a l'air de le regretter, une élimination aussi radicale. Alors comment faire pour repérer les criminels potentiels, les criminels dangereux avant qu'ils commettent le crime et dès leur plus jeune âge? Eh bien, dit-il, c'est en triant les enfants, et cela dès l'âge de 3 ans. Mesure qui peut nous rappeler quelque chose. Bien évidemment, il ne trouvera jamais de législation qui aille dans ce sens et qui réponde à sa satisfaction. Donc il pourra toujours dire, c'est ce qu'il a fait par la suite, aucun législateur ne prend les mesures nécessaires pour arriver aux fins qu'il veut rechercher. Alors je terminerai en disant que les partisans de l'indulgence, les partisans de la douceur, sont aussi, ça n'est pas surprenant, prisonniers de ces registres contextuels. Ils en sont prisonniers d'abord parce que, à partir du XIXe siècle, et surtout après l'école positiviste, ils vont se retrouver en position réactive, en position de défense, et d'une certaine manière toujours en retard d'une mesure, d'une doctrine par rapport aux partisans de la sévérité, à chercher à montrer que les partisans de la sévérité n'avaient peut-être pas totalement tort. Tous les auteurs, jusqu'à Marc Ancel compris, font hommage à l'école positiviste, reconnaissent des acquis de l'école positiviste, mais ils considèrent que l'école positiviste est allée trop loin, qu'elle est extrémiste, que la pratique lui a donné tort, et donc ils essayent d'établir une frontière, un mur protecteur de la liberté un petit peu plus loin, mais au risque d'avoir à reculer davantage. Ce mur protecteur, ils l'établissent souvent, aussi bien les auteurs de la fin du XIXe siècle que ceux du XXe siècle, en invoquant l'humanisme, la justice, les droits de l'homme, le christianisme, c'est-à-dire en se mettant dans une position de recours aux droits naturels qui rend pour le moins difficile la combinaison de thèses positivistes avec cet appel à des principes supérieurs à la loi. Il n'empêche que ces auteurs, et surtout ceux de la deuxième moitié du XXe siècle, sont aussi très influencés par le contexte et notamment par les législations des États autoritaires de l'entre-deux-guerres ou de la Seconde Guerre mondiale, par le crime contre l'humanité ensuite, pour essayer de réagir. Et parmi les arguments qui sont portés, et là on le trouve déjà chez Beccaria, il y a l'argument que les progrès de la démocratie devraient mettre fin à ces cycles répressifs, à ces cycles de sévérité excessive. Beccaria écrit « Sous le régime paisible de la légalité, sous un gouvernement approuvé par l'ensemble de la nation, là où le pouvoir n'appartient qu'au véritable souverain, aucune nécessité n'existe de faire périr un citoyen. » Et c'est, nous pensons, une ultime ambiguïté des doctrines pénales humanistes. En fondant leurs espoirs sur le régime démocratique, en croyant que le peuple ne peut vouloir nuire à aucun de ses membres, ils prennent le risque de ne pouvoir critiquer des politiques sécuritaires, dans certains cas extrêmement sévères, votées par des assemblées démocratiquement élues, décidées par le peuple lui-même. Le gouvernement de l'opinion publique ouvre la voie aussi bien au populisme pénal qu'à l'élargissement de la solidarité humaine. Aussi, les doctrines pénales, même les plus humanistes, sont forcées à des repositionnements doctrinaux constants pour tenir compte de cette évolution de l'opinion publique. Et dans les deux sens, parce que nous ne pouvons plus souscrire aujourd'hui à ce qu'écrivait Beccaria, d'assez sévère, à l'égard du bannissement des étrangers ou des récidivistes. Reconnaître ces ambivalences, accepter que les doctrines pénales ne soient jamais que des arguments conjoncturels face à des situations données et non pas des solutions définitives et atemporelles, est peut-être la première étape pour sortir de ce dilemme entre sécurité et liberté.